Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Comme toujours, vos réflexions et témoignages sont attendus sur le site de Sciences Publiques au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Le tourisme spatial est-il la prochaine étape de la conquête de l'espace ? Mardi 23 novembre 2015, une information est passée presque inaperçue. Pourtant, pour la première fois dans l'histoire de l'aéronautique, le corps d'une fusée s'est reposé sur Terre après être monté à 101 km d'altitude. Cet événement est d'abord une performance technique. Si les Américains ont développé à grand frais la fameuse navette spatiale, c'était justement pour disposer d'un vaisseau récupérable, à ceci près que la navette était lancée par une fusée détruite lors de chaque vol. Or, l'économie de l'aventure de l'homme dans l'espace dépend largement du coût du lanceur. Et le développement d'une activité commerciale, comme prétend le devenir, le tourisme spatial, n'a de chance de se produire que si le coût d'une balade à la frontière de l'espace devient accessible à un public qui, sans être immédiatement très large, peut se mettre à la portée des plus riches. Longtemps, le tourisme spatial a fait pâle figure face aux autres projets de la conquête de l'espace. Difficile en effet de rivaliser avec la marche des astronautes sur la Lune, avec la Station spatiale internationale ou avec les projets de vols habités sur Mars. Pourtant, les temps changent depuis quelques années. Sans doute en raison de la révision à la baisse des ambitions humaines dans l'espace. Trop cher en temps de crise économique, de guerre qui se multiplie et d'urgence de la lutte contre le terrorisme. La NASA, fer de lance de la conquête spatiale, voit ses budgets stagner, ce qui a tendance à lui couper les ailes. Désormais, l'homme sur Mars doit se contenter de se regarder au cinéma, comme avec le film « Seul sur Mars » de Ridley Scott, sorti en France en octobre 2015 et encore à l'affiche. Du coup, le tourisme spatial se sent pousser des ailes et attire les investisseurs privés. Ainsi, une nouvelle bataille de l'espace semble en train de naître. Les pionniers ne sont plus des ingénieurs comme Werner von Braun, Valentin Glushko ou Sergei Korolev, mais des hommes d'affaires comme Jeff Bezos, patron d'Amazon, Elon Musk, fondateur de PayPal, ou Richard Branson, ex-propriétaire des Virgin Megastore, reconverti entre autres dans le transport aérien. Depuis l'exploit technologique de Blue Origin, pointent déjà des projets commerciaux de parcs à thème dédiés à l'espace, dans lesquels un port spatial permettrait aux visiteurs les plus riches d'aller faire un tour dans l'espace proche. Une nouvelle forme de tourisme qui peut paraître paradoxale au moment où la planète s'interroge sur les moyens d'économiser l'énergie et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Pour faire le point sur ce nouveau rêve de l'homme cherchant à se libérer de l'attraction terrestre, nous recevons aujourd'hui en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio Marc Alban, qui est pilote de chasse, général et président du fonds de dotation Destination Étoile. Marc Alban est également ancien directeur du musée de l'air et de l'espace. Jacques Blamont est physicien, ancien directeur technique et scientifique du Centre National d'études spatiales, le CNES, et professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Et Amaury Solignac est psychologue et il a participé à la sélection psychologique du dernier groupe d'astronautes européens. Il est directeur de la société de services et de R&D dédiée aux environnements extrêmes, Iceberg. Je vous rappelle que vous pouvez nous adresser vos remarques et réactions sur le site de Sciences Publiques, sur franceculture.fr. Jacques Blamont, bonjour.
Bonjour monsieur.
Donc avant de parler de tourisme spatial lui-même, peut-être un mot sur cet exploit de Blue Origin qui a pour la première fois, et les images sont spectaculaires, d'ailleurs la vidéo est sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez, les auditeurs peuvent la regarder, où on voit une fusée revenir sur Terre et se reposer pratiquement à l'endroit d'où elle est partie. Est-ce que c'est, de votre point de vue, un véritable exploit ?
Oui, parce que envoyer vers le haut une certaine masse avec une certaine vitesse, c'est pas du tout la même chose que le renvoyer vers le bas. Lorsque on tire une fusée spatiale, eh bien, il s'agit essentiellement d'un moteur dont on assure la direction de la sortie des gaz avec précision, et qui brûle jusqu'à ce qu'il s'arrête, point à la ligne. Mettons, à 100 km d'altitude, il a atteint une certaine vitesse, qui peut être de l'ordre de 4 km par seconde, et puis ça s'arrête là. Maintenant, si vous voulez que récupérer cet objet qui est maintenant à 100 km à une certaine vitesse, cette vitesse va s'annuler à 100 km à peu près, avec un fusée habituel, et donc il va commencer à tomber. Et il va traverser l'atmosphère qui devient de plus en plus dense. Et donc, son comportement à travers les différentes altitudes ne va pas être le même. Il y a un moment où il n'y a pas du tout d'atmosphère et donc on peut pas voler. Mais au contraire, quand on arrive en bas, il y a de l'atmosphère, donc on peut voler. Donc, on va utiliser une sorte d'avion. Récupérer, eh bien, il faut ajouter au propulseur de départ quelque chose de tout à fait nouveau qui ne ressemble pas du tout à la mission originale et qui consiste à, essentiellement à freiner et ensuite à s'assurer que on peut le diriger. Donc, ça veut dire qu'il s'agit essentiellement d'un petit avion.
Voilà, un petit avion qui n'a pas d'aile, qui tombe à la verticale et qui doit arriver à rester
stable. Il y a des projets où il y a des ailes.
Voilà, celui-là n'a pas d'aile, celui de Blue Origin. Donc c'est peut-être ça aussi qui rend la chose spectaculaire et qui nous surprend. Marc Alban, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes ancien pilote de chasse, donc vous avez pratiqué ces vols en altitude. Comment vous jugez cette performance technique de voir cette fusée sans aile, avec sans tête non plus, puisque la tête, on en reparlera, c'est la capsule avec les censés accueillir des êtres humains et qui elle retombe par ailleurs avec un parachute, mais là donc le corps redescend et se pose.
C'est exact. Donc il y a effectivement bien deux choses qui reviennent, si je puis dire. Il y a la capsule d'un côté sous son parachute et de l'autre côté la fusée. Je veux dire, alors je suis pas un technicien, mais je veux dire que j'ai trouvé ça exceptionnel. Et il y a une vidéo où on voit donc ce corps, j'allais dire ce gros cigare qui redescend sur Terre et qui va revenir pratiquement au centimètre près à l'endroit d'où il est parti. Au niveau du contrôle aérodynamique de ce cigare, j'allais dire, pour moi c'est tout à fait exceptionnel. Bon, on sait déjà, et on l'a fait sur un certain nombre d'avions, on sait déjà faire de l'atterrissage à la verticale, mais c'est avec des avions qui ont des ailes, etc. Là, c'est vraiment, c'est un corps fuselé qui redescend, et d'ailleurs, on voit très bien sur la vidéo, quand on la passe au ralenti, on voit qu'à un moment donné, ça hésite un petit peu, et on se dit, oh là là, ça va basculer. Non, non, ils ont réussi à la ramener, et je trouve ça fantastique.
Alors il faut préciser qu'il y a eu d'autres essais et que c'est le premier qui réussit véritablement après en plus un vol à 100 km d'altitude qui préfigure bien ce dont on va parler aujourd'hui.
Ce dont on va parler.
C'est-à-dire des possibilités de tourisme spatial.
C'est vrai, je ne veux pas faire de la peine à SpaceX, mais c'est vrai que SpaceX a tenté exactement la même chose quelques mois auparavant.
Donc SpaceX créé par Elon Musk, ce que j'ai cité tout à l'heure, hein, donc l'ancien fondateur de PayPal.
Tout à fait. Voilà. Et donc, mais bon, ceci dit, je pense qu'ils vont y arriver aussi.
Voilà, donc effectivement, et on verra la raison pour laquelle tout le monde essaie d'atteindre ce résultat, des raisons probablement économiques dont on parlera. À Maurice Lignac, bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être là, c'est pas votre domaine, la technique particulièrement, mais comment vous réagissez-vous en tant que psychologue par rapport à ce spectacle du retour sur Terre de cette fusée?
Bah écoutez, le fait que la fusée soit rentrée, c'est effectivement pas de l'ordre de la psychologie. J'ai fait une formation qui m'a permis d'aborder un peu la technique. Donc sans parler pour les physiciens, je peux dire que c'est un exploit, c'est vrai, tout à fait vrai. Maintenant, l'étape d'après pour Jeff Bezos, si j'ai bien compris, c'est de faire voyager du monde dans cette fusée et de faire donc des missions régulières.
Voilà, il faut préciser que les gens qui seront à bord de la fusée ne redescendront pas avec ce corps puisqu'il est prévu de les récupérer un peu de façon plus traditionnelle avec des parachutes. Donc, qui vont les freiner. Et ce qui quand même est un atterrissage plus ordinaire ou moins spectaculaire que de rester sur le corps de la fusée. Et j'imagine que c'est pas vraiment envisageable, Jacques Blamont. On peut pas imaginer que les gens restent sur la fusée qui redescend et qui se repose.
On peut tout imaginer. ce sont des choix qui sont imposés par l'analyse des risques. Et bien évident que rester avec l'engin qui descend, c'est plus dangereux que si on sépare les hommes, disons, du système de propulsion puissant.
Alors, ce qui est original aussi, et quand même remarquable, c'est que ces performances techniques ne sont pas réalisées par les grands acteurs traditionnels de la conquête spatiale. Ça n'est non, ni ça... la NASA, ni,
non,
ni
les Russes. Je crois que c'est un fait nouveau, très très intéressant, qui dépasse l'espace d'ailleurs. C'est l'arrivée de Silicon Valley dans les activités industrielles. Il y a des gens, de jeunes gens très brillants qui ont gagné chacun des dizaines de milliards de dollars et qui ont une culture que j'appellerais puérile de jeux vidéo et qui sont intéressés par des aventures, de mettre leur argent dans des aventures industrielles, et aussi bien Apple que Google, Amazon, toutes ces maisons qui ont des grands capitaux sont en train de modifier le paysage industriel, en particulier dans quelque chose qui n'est pas l'espace, mais qui est beaucoup plus important pour la vie commune, l'automobile. Il y a à l'heure actuelle un très gros investissement dans l'automobile autonome. Et tout le monde me dit que dans moins de 10 ans, on trouvera sur le marché de grands nombres, chez tous les constructeurs, des voitures qui se conduisent toutes seules. Et ceci est très important, ça va changer la vie quotidienne. Et ça vient en grande partie des investissements de ces gens-là. Donc, ils se sont aussi lancés dans l'espace avec des idées tout à fait étrangères à l'espace. Et ils ont réussi, grâce à leurs capitaux, à réunir de brillantes équipes techniques, en particulier des anciens, de tous les industriels américains ou universitaires. Et donc, on voit effectivement des réussites techniques spectaculaires, comme la plus importante jusqu'à présent, c'est celle de SpaceX, qui est due à Elon Musk, et qui a groupé d'une façon extrêmement brillante une série de vétérans, d'une part, et de jeunes gens qui travaillent 16 heures par jour et qui ont réussi à développer la fusée Falcon, qui est devenue un des acteurs importants de l'espace.
Voilà, donc ils se substituent aux Soyouz ou à des acteurs historiques comme la NASA, et qui réussissent cela avec un investissement purement privé. C'est ça, oui, qui est quand même... Et avec aussi des coûts qui, semble-t-il, on peut révolutionner l'industrie aéronautique.
Ça, on en sait vraiment rien.
Aéronautique.
On n'en est pas sûr. Pas. Naturellement, il y a là-dedans beaucoup... Beaucoup de marketing. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des réussites techniques. Et ces réussites techniques, elles proviennent parce que ces messieurs sont très riches. Et donc, ils sont capables, avec beaucoup de brio, de savoir où est l'innovation. Ils sont liés intimement à leurs universités d'origine. Et sont des gens très sérieux, très organisés, et devant lesquels on ne peut que s'incliner.
Merci, oui. Donc, après cet avis de Jacques Blamont, Marc Alban, il est remarquable que ces nouveaux acteurs prennent les choses de cette façon. Au début, peut-être, on les a considérés un petit peu avec le sourire dans le milieu, j'imagine, dans l'aéronautique, jusqu'à ce que SpaceX arrive effectivement à remplir ses missions de transport de fret ou de passagers dans la Station Spatiale Internationale, et où, en même temps, parallèlement, se développe justement des activités de tourisme spatial.
Oui, je voudrais faire deux remarques. En fait, ils viennent en concurrent, ils vont pas remplacer, ils viennent en concurrent. Ce qui a mis l'Europe en position, justement, d'être obligée de trouver un nouveau vecteur, plus performant, moins coûteux, etc., pour rester, justement, concurrent, mais un bon concurrent, je veux dire.
Compétitif, quoi, par
rapport à... Compétitif, oui. Absolument. Alors, c'est vrai que à l'heure actuelle, lorsqu'on regarde effectivement ce que font tous ces gens-là, qu'il s'agisse du New Shepard, qu'il s'agisse du Falcon 9 ou d'autres, tous ces gens-là effectivement ont développé au départ un vecteur pour rejoindre la station spatiale internationale.
Donc on va utiliser beaucoup le mot vecteur, ça veut dire fusée comme ça.
Excusez-moi.
Non, mais je pense que ça sera pas.
Mais
sera
c'est
difficile
le bon terme,
de ne pas
si
utiliser
c'est
ce
le bon,
terme.
C'est le bon terme.
Et
c'est bon
simplement,
terme.
C'est pour dire que ça, voilà. Ça veut dire fusée.
Ouais. Donc ça a été développé pour ça au départ, tout simplement parce que les Américains n'avaient plus une navette spatiale, et puis que bon, les Russes continuaient, heureusement d'ailleurs, à fournir des vecteurs pour aller sur la station spatiale internationale. Puis là, bon, on s'est dit, ben, l'Europe s'est dit, il faut faire quelque chose. Les Américains se sont dit, il faut faire quelque chose. Alors, ce sont des privés, effectivement, qui ont pris le relais, en quelque sorte, aux États-Unis. Alors, moi, je vais positiver, si vous voulez, sur cet aspect-là, parce que ma démarche, comme je vous l'ai dit, ma démarche, c'est que un maximum de gens puissent accéder un jour à l'espace, connaître l'espace, découvrir ce que c'est que l'espace. Et au fond, je me dis que si ces gens-là arrivent à fabriquer un vecteur pas trop coûteux, pas polluant, qui permette simplement d'aller voir ce qui se passe un petit peu là-haut, moi je trouve ça formidable.
En même temps, il faut quand même noter, et Jacques Blamont l'a bien expliqué, c'est que ce sont que des Américains, pour l'instant, semble-t-il, qui pilotent cette nouvelle ère, un petit peu, de fabrication de fusées, qu'il n'y a pas l'équivalent en Europe, ou, semble-t-il, même ailleurs, en Asie, ou dans d'autres pays, Jacques Blamont.
Non, je ne pense pas, jusqu'à présent, qu'il se soit manifesté. Oh, peut-être qu'il y a beaucoup de milliardaires en Chine aussi. Je crois que c'est le pays du monde où il y a le plus de milliardaires à l'heure actuelle.
Il y en a de plus en plus.
Pardon.
Il y en a de plus en plus.
Il y en a de plus en plus. Mais jusqu'à présent, ils ne se sont pas manifestés au niveau industriel parce que la Chine est tout de même en retard au point de vue industriel.
Et peut-être aussi au niveau industrie privée, les choses ne sont pas aussi faciles.
C'est peut-être parce que la Chine est dans une phase de rattrapage, de rattrapage de toute la technologie moderne.
Alors, il y a ces nouveaux acteurs et il se trouve que tous, ou presque, se focalisent sur cette notion de tourisme spatial. Peut-être, Marc Alban, une définition de ce que vous imaginez, quelle est votre conception de cette nouvelle activité?
Oui, merci, parce que je crois que c'est vraiment important. Dans l'esprit de beaucoup de gens, quand on parle de tourisme spatial, on pense tout de suite au Spaceship Two, à Richard Branson, et au ticket à 200 000 euros pour aller faire joujou là-haut.
Voire 250.
Peut-être, j'en sais rien.
Les chiffres sont un peu variables.
Nous avons une approche qui est complètement différente du tourisme spatial. Si vous voulez, pour simplifier les choses, pour moi, le tourisme spatial, il commence à la Cité de l'Espace, ou au Musée de l'Air et de l'Espace. Où il y a un hall, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, un hall de l'espace qui est très, très bien fait. Je le dis d'autant plus volontiers que c'est pour moi qui m'en suis occupé. Donc, voilà. Donc, pour moi, ça commence là. Et le but, encore une fois, c'est vraiment d'amener le maximum de gens à découvrir et à connaître l'espace. Donc, on va commencer là. On va commencer par la Cité de l'espace, ou le Musée de l'air de l'espace, ou l'Europe Space Center qui est en Belgique. Bon. Et puis, on va essayer de proposer aux gens, en fonction de leurs moyens, mais aussi de leur capacité physique, de faire des vols, par exemple, sur l'Airbus 0G. Bon, ça coûte 6 000 euros. On va essayer de faire que ça coûte un peu moins.
Donc l'Airbus 0G, c'est un Airbus qui est capable de monter très haut et de faire ce vol en forme parabolique qui
pas
permet...
Très haut.
Pas très haut.
Non,
à l'altitude
pas trop.
D'un avion normal.
Très oui, enfin très haut, je veux dire à 10 000 mètres, c'est
ouais,
ça.
Oui, c'est ça. Bon, en gros, si vous voulez, l'espace dans lequel il évolue, c'est entre 6 000 et 10 000 mètres, sensiblement. Alors l'Airbus 0G, il fait des paraboles qui durent à peu près 25 secondes. Pardon, excusez-moi, il fait des paraboles à l'intérieur desquelles, pendant 25 secondes, 24 ou 25 secondes, on est effectivement, les gens disent microgravité, je veux dire en apesanteur, enfin bon. Alors ça, ça a plusieurs... Enfin, au départ, l'objectif, c'est de faire un certain nombre d'expérimentations en apesanteur. Il y a un certain nombre de produits qu'on peut développer en apesanteur qu'on ne peut pas développer en pesanteur normale, je veux dire.
Bon. Il faut être très rapide pour faire les tests, quand même.
Il faut être rapide. Alors, ben, je vous le fais pas dire.
Et pour ce qui est du tourisme, là, ça fait quand même cher la seconde aussi.
Voilà, ça fait cher la seconde, tout à fait. Bon, donc ça, c'est un premier objectif, c'est d'arriver à faire que ces vols soient un petit peu moins coûteux par passager. Bon. Alors, pourquoi je faisais cette remarque? Parce que justement, quand on pourra, un jour, je l'espère en tout cas, on pourra faire des vols dits suborbitaux, ça permettra de faire de l'apesanteur pendant 3, 4 ou 5 minutes en fonction des engins. Et là, pour les scientifiques, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous pouvez mener une expérimentation pendant 3 ou 4 minutes, ce que vous ne pouvez pas faire à l'évidence sur dans l'Airbus 0G.
Donc, ouais, alors, suborbitaux, ça veut dire plus haut.
Alors, suborbital, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Suborbital, c'est en dessous de l'altitude à laquelle on peut mettre un satellite en orbite, par exemple. On va dire, en gros, c'est aux alentours de 300-350 km. Donc, ce qu'on appelle le suborbital, c'est entre l'altitude maximum des vols commerciaux, on va dire 20 km, et l'altitude à partir de laquelle on peut mettre des satellites en orbite. C'est ça, le suborbital.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Albert-Gonti.
Nous débattons aujourd'hui la question, le tourisme spatial est-il la prochaine étape de la conquête de l'espace, avec nos invités, Marc Alban, pilote de chasse, général, ancien président du musée de l'air directeur. Et de l'espace, et aujourd'hui directeur du fonds de dotation Destination Étoile. Jacques Blamont est physicien, ancien directeur technique et scientifique du Centre National d'Études Spatiales, le CNES, et professeur à l'Université Pierre et Marie Curie. Et Amaury Solignac est psychologue. Il a participé à la sélection psychologique du dernier groupe d'astronautes européens, et il est également directeur d'Iceberg, une société de services et de R&D dédiée aux environnements extrêmes. Alors peut-être une réaction de Jacques Blamont déjà à cette première définition du tourisme spatial et votre position par rapport au développement de cette activité.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a tout de même une petite confusion. Il y a, disons, le suborbital et le spatial. Suborbital, ça veut dire qu'on met le monsieur ou la dame dans une fusée qui monte verticalement jusqu'à 100 km et qui redescend, point. Ça n'a rien de spatial du tout, ça, mais c'est pourtant, à l'heure actuelle, ce qu'on appelle le tourisme spatial.
C'est à la limite de l'espace, 100 km, c'est à peu près l'épaisseur de l'atmosphère.
Non, c'est pas une question de ça, l'espace, c'est la mise en orbite d'objets. C'est-à-dire qu'on leur donne au moins 7 km par seconde, et puis de vitesse horizontale, et puis ils y restent.
Donc 7 km par seconde, c'est pour échapper à l'attraction terrestre et mettre en orbite, c'est bien ça.
On n'échappe pas du tout à l'attraction terrestre là-dedans. Quand on est en orbite, on est soumis à l'attraction terrestre qui vous impose de rester sur une trajectoire elliptique keplérienne. Et quand on est dans une fusée qui monte et qui redescend, eh bien, on ne sent pas la force de pesanteur parce qu'elle est compensée. Mais on est tout de même soumis au champ. On n'y échappe pas du tout. Nous parlons de quelque chose qu'on appelle tourisme spatial, mais qui à l'heure actuelle n'est pas spatial. Il faudrait mettre des gens en orbite, et ça c'est une autre affaire et qui n'a rien de touriste.
Alors peut-être une réaction de Marc Alban sur cette contestation.
C'est très important ce que vous dites, parce qu'il faut bien définir ce qu'on entend par tourisme spatial, et à mon avis, on est en train de chercher justement un terme qui dise bien ce qui est le fond de notre démarche, c'est que tout le monde puisse, d'une façon ou d'une autre, accéder à la connaissance de l'espace. Et ça, c'est très important, parce que l'espace, ça fait rêver. L'espace, c'est une des grandes aventures de l'humanité pour les années à venir. Donc, et puis, il n'y a pas que ça. Après tout, on dépense quand même beaucoup d'argent pour la conquête de l'espace. Je trouve qu'il est normal que le citoyen puisse comprendre et découvrir et apprendre ce que c'est que l'espace. Donc, notre démarche, quand on parle de tourisme spatial, et encore une fois, il faudra probablement trouver un autre terme. Il s'agit bien de faciliter la connaissance en partant de la cité de l'espace, par exemple, enfin d'un site dans lequel on raconte l'espace, et puis peut-être de faire un petit peu d'Airbus 0G, et puis peut-être plus tard d'aller dans des ballons stratosphériques, aller observer la Terre à 30 km d'altitude, et puis un jour, peut-être, effectivement, dans des vecteurs ou des avions suborbitaux, comme vous voulez, qui, eux, pourront faire cette trajectoire parabolique qu'on fait à 20 km, mais là, ils la feront beaucoup plus haut, et ça durera beaucoup plus longtemps. Et donc là, on pourra vivre, effectivement, la pesanteur. Et ça, c'est toute une panoplie. J'allais dire, ça va de 30 euros à 200 000 euros.
Amaury Solignac, comment vous réagissez à cette panoplie, justement, qui est offerte pour que l'être humain du 21e siècle puisse goûter aux joies de l'espace, entre guillemets, puisqu'il faut préciser ce qu'on entend par espace?
Écoutez, moi je suis passionné par le spatial, donc je suis, comme tous les passionnés, j'ai envie de partager ce qui fait la passion. Mais c'est vrai que quand on regarde la panoplie dont vous parlez, entre le musée au sol et le séjour en orbite, pour avoir fait de la sélection d'astronautes, tout le monde ne peut pas être astronaute. Donc il y a un moment où peut-être que les conditions du voyage, du vol, ne sont pas conseillées à tout le monde.
Pour quelles raisons ? Alors quelles sont les limitations possibles ?
Pour commencer, parce que c'est un vol qui se fait en confinement. Probablement pour ces astronautes-là, qui seront quand même des astronautes. Les touristes qui partent dans l'ISS depuis le début des années 2000 sont des astronautes à part entière.
Il y en a eu combien à peu près ?
4, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, 4.
Pardon, je crois, les 4 touristes personnes. Qui sont allés dans la station spatiale sont au nombre de...
Ils sont 8.
Ils sont 8.
Ah. Et ils ont payé en gros 20 millions d'euros pour passer une semaine là-haut.
Voilà, le problème étant que...
Ils ont été formés pendant au moins 6 mois.
Oui, ils ont reçu une vraie formation. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de sélection naturelle, on pourrait dire. Maintenant, vu la somme qu'ils apportent sur la table, je suis pas sûr que les critères s'appliquent comme d'habitude. Mais c'est pas vraiment la question. Une fois qu'ils
en même
sont,
temps, ils n'ont pas la même mission, ils n'ont pas la même responsabilité.
Non, ils n'ont pas la même mission, ils n'ont pas les mêmes occupations. Pendant la semaine, pendant que les astronautes sont en train de monter, démonter des choses dans tous les sens, eux sont finalement en train de regarder dehors et se demander même comment ils remplissent le temps au bout d'une semaine.
Il me semble faut faire bien attention dans vos définitions, parce que quand vous parlez de tourisme spatial, vous parlez de touristes et pas de scientifiques qui vont faire des mesures pas d'astronautes qui ont subi six mois de traitement intensif
et de formation en amont.
Il s'agit de monsieur tout le monde. C'est ça le tourisme, et c'est tout à fait différent.
Mais est-ce que justement, pour monsieur tout le
monde,
il y a une préparation particulière
ou pas ? C'est la notion de l'altitude à laquelle ils ont été, le fait d'avoir été en orbite. Voilà, le statut d'astronaute américain venant de là, la plupart ont volé sous cette bannière. Donc c'est, voilà.
Quelle est la préparation ?
Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas la même chose. Et la formation n'ont rien à voir du tout avec ce que les astronautes professionnels.
Je peux vous parler de la préparation, justement.
Attendez, justement, Amaury Soulignac, lui, la pratique. Quelle est la préparation en humour, déjà psychologique ? Est-ce qu'il y en a une particulière ? Est-ce que, justement, dans cette panoplie d'activités hors du sol terrestre, puisqu'on ne peut pas parler toujours d'espace, est-ce qu'il y a des préparations particulières à chacun, pour chacune de ces activités ?
Alors là, vous parlez des
On parle des vols paraboliques. On parle que des touristes, là. Des vols paraboliques, le ballon à 30 km d'altitude, la montée à 100 km et peut-être la mise en orbite un peu plus haut.
Mais je dirais qu'on peut revenir à la définition de ce que c'est qu'un environnement extrême, puisque là, ça peut servir. Donc, isolement, confinement, monotonie, danger. Isolement, à moins que la mission ne soit lointaine, donc un vol parabolique n'est pas isolé. En revanche, il est confiné, donc c'est pas un facteur majeur, mais si quelqu'un se retrouve à être en train de faire une crise de claustrophobie dans un avion 0G, comme c'est arrivé une fois, c'est déjà un problème. Donc on peut avoir certains problèmes à éviter dans tous ces environnements-là. Pour le 0G, c'est simple, relativement simple, parce que c'est de l'aéronautique et c'est très connu, c'est balisé. Même si c'est différent d'un vol normal. Si on passe au ballon, là on est complètement dans autre chose déjà. L'altitude, le danger, qui est vraiment beaucoup plus important, et sans parler de vol suborbital ou orbital.
Alors quand on voit justement la capsule de Blue Origin, là on se rapproche d'une capsule de spatiale, et avec là au niveau du confinement, j'imagine un peu les mêmes problèmes que les astronautes rencontrent lorsqu'ils partent véritablement dans l'espace. Et ça, il va falloir probablement que les futurs touristes s'habituent à cette perspective, Marc Albon.
Oui, c'est vrai qu'il va falloir se débarrasser de ce terme de touriste. Effectivement, pour les
si gens... on enlève touriste et spatial, il va falloir effectivement les remplacer rapidement pour pouvoir en parler.
Bon, c'est la raison pour laquelle dans notre projet, ce qu'on évoquera si vous voulez, dans notre projet, il y a toute une partie qui est consacrée à la mise en condition des gens qui iront effectivement faire un tour à très très haute altitude, je dirais. Quand je parle de mise en condition, Amaury vient de l'évoquer, bien sûr. Il y a aussi la préparation physique. Il y a aussi la mise en condition psychologique, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer à travers un simulateur, à travers une projection, à travers, on va dire, un certain nombre de briefings. On va leur apprendre à mettre une combinaison. Donc on va vraiment les mettre complètement en condition et ça va durer 3, 4 jours, 5 jours en fonction des besoins. Puis il y a le critère de base qui est un critère médical, tout bête. Donc il va falloir qu'ils passent une visite médicale extrêmement approfondie. Au fond, c'est complètement évident parce que quelqu'un qui va payer un ticket quand même assez cher, s'il revient complètement malade et complètement vert jaune, comme on en a vu quelquefois d'ailleurs dans leur bus 0G, c'est pas bon.
D'accord.
Donc il y a une vraie préparation. Je veux dire, encore une fois, ce terme touriste, on n'envoie pas les gens comme ça n'importe comment. Vraiment, d'abord on les sélectionne, on les sélectionnera et on les préparera. Et ça, c'est très important.
Pour l'instant, la sélection a quand même été apparemment essentiellement financière. Est-ce qu'il y a eu des cas où on a refusé la candidature d'un candidat touriste pour aller, par exemple, sur la station ou...
Pas que je sache. En tout cas, ça s'est pas fini comme ça. La manière dont ça a été dit, je ne sais pas si c'est vraiment un refus, mais il y a eu des arrêts de dernière minute avant le lancement. Enfin, des gens qui n'ont pas volé alors qu'ils avaient parlé de payer, ils étaient en train de s'entraîner et ça s'est arrêté. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas.
Jacques Blamont.
Il faut faire bien attention que dans des affaires de vol habité telles que nous les pratiquons, disons que les agences pratiquent, eh bien, il y a une philosophie technique qui est extrêmement raffinée et qui impose toute une série de règles, disons, non seulement à l'analyse des systèmes, mais en plus à toutes les fabrications, ce qu'on appelle en américain man rating, c'est-à-dire que les systèmes sont mis à un certain niveau, un niveau tel que l'homme puisse survivre en orbite. Tout ce travail exige une grande quantité de personnel, beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que c'est cher. C'est que on arrive à éviter les accidents. Et je constate que en ce qui concerne toutes ces sociétés privées qui se lancent dans ce qu'ils appellent le tourisme spatial, ils n'ont pas encore volé, mais il y a déjà 4 morts.
C'est le gros problème aujourd'hui, la sécurité. Sécurité fait que c'est le frein principal aujourd'hui.
Les 4 morts ont eu lieu quand?
Il y a eu 3 morts dans une explosion de fusée au sol. Mmh. Et puis celui qui a été lors du vol de Branson qui a échoué. Et donc vous pouvez attendre à ce que où on change les méthodes, et à ce moment-là, ça ne sera plus les mêmes prix, du tout. Ou si on continue, ça deviendra très risqué.
Marc Albon.
Oui. Je voudrais d'abord faire un parallèle qui je pense, est important. Alors, on est en train là de parler en quelque sorte de pionnier. Bon, je rappelle simplement qu'au début de l'aviation, je connais bien le sujet, il y a eu un certain nombre de gens qui sont morts parce qu'ils avaient une passion et puis parce qu'ils voulaient s'investir. Et pour le Spaceship Two, il y a eu une erreur humaine dans le pilotage de ce Spaceship Two qui a conduit effectivement à un crash. Mais quand vous regardez le développement de la plupart des prototypes, malheureusement, c'est une réalité. Heureusement, de moins en moins en tout cas, mais de temps en temps, il y a un crash parce que c'est inhérent, je dirais, au développement. Et une petite précision, parce que ce que vient de dire M. Blamont est très important. Entre faire voler du matériel, on va dire du fret, etc., où on arrive à avoir des pourcentages de réussite de l'ordre de 97-98%, et faire voler des humains où on cherche le 100%, la marge entre les deux, elle coûte très, très cher. Et c'est ça qui est important.
Alors, il y a d'autres solutions, peut-être moins risquées, à Maurice Solignac. Vous travaillez, parallèlement à votre travail de psychologue, sur un projet de tourisme spatial virtuel. De quoi s'agit-il ?
Oui, en fait, ça vient du spatial, puisque c'est un projet qui est né au départ comme un spin-off d'un projet pour les astronautes, qui était de fournir de la réalité virtuelle dans les vols spatiaux de longue durée, comme un moyen de lutter contre le confinement, les effets du confinement, de l'isolement, de la monotonie. Et ce projet a fait qu'il a fallu faire des essais techniques en vol, paraboliques, et une manière de tester la chose, c'était de représenter la Terre dans la scène et de tout simplement regarder pendant le vol parabolique, donc pendant la période d'apesanteur, d'avoir un objet, une référence fixe pour se rendre compte comment le masque réagissait. Et le résultat était que ça fonctionnait bien et que l'effet, même s'il n'était pas recherché, était très intéressant. Et donc c'est dans cette idée-là que Iceberg lance Orbital Views, qui est une offre de réalité virtuelle. Donc en fait, on pourrait parler de tourisme spatial pour le coup, puisque là, c'est une vision de ce que les astronautes voient depuis l'orbite, dans un masque de réalité virtuelle, mais en ressentant la pesanteur en plus.
Alors comment ressent-on la pesanteur ?
Alors la pesanteur, c'est comme on la ressent dans l'absolu, sans parler de réalité virtuelle, c'est quelque chose de très agréable. Je pense que vous avez essayé aussi, Marc, ouais. C'est quelque chose qui est
Donc là, c'est forcément dans un avion...
Alors, il faut un avion 0G. Après, 0G. Dans le principe, on peut faire de la pesanteur avec une balançoire ou des choses beaucoup plus simples. Mais si on veut que ça dure, oui, il faut la sensation d'apesanteur qu'on a dans un avion 0G, elle dure 20-25 secondes.
Donc, si je résume, on est dans un avion 0G pendant 25 mm-hmm. secondes et on porte votre casque qui mm-hmm. donne l'impression d'être beaucoup plus haut. C'est-à-dire à l'altitude où on est vraiment dans l'espace.
En orbite, autour de la Terre, par exemple, avec la vue de la Terre, comme on l'aurait si on était dans la station internationale.
Voilà, donc c'est combiner effectivement cette sensation réelle avec une vision numérique. Marc Alban, ça vous paraît être une des voies possibles pour justement...
Tout à fait.
Élargir la panoplie.
Je le dis d'autant plus facilement qu'Amaury m'a fait tester justement un masque de réalité virtuelle où je me suis promené véritablement dans les planètes et c'est absolument merveilleux. Ceci dit, pour parler de merveilleux, moi je vais vous parler aussi 30 secondes de ce que les gens appellent la pesanteur. Il faut essayer de s'imaginer ça, si vous voulez, vous vous mettez au fond de l'avion et puis vous donnez une toute petite impulsion sur la cloison à l'arrière par exemple et là vous traversez toute la cabine en volant. Et vous faites ce que vous voulez de votre corps, vous êtes oiseau pendant 20 secondes, 25 secondes, etc. Et ça, c'est fabuleux.
Et ça, ça coûte aujourd'hui 5 000
Pour l'instant, ça coûte 5 800 ou 6 000 euros.
Il y a combien de gens qui en profitent ? C'est-à-dire, combien de personnes aujourd'hui font appel à ce... Donc, quelle est la société qui commercialise ces vols ?
Alors, la société qui gère, je demande pardon à mes camarades de Novespace si j'ai pas le bon terme. Société qui gère, c'est Novespace, qui est une filiale à 100% du CNES.
Dirigée par société... Jean-François Clairvoy.
Pardon.
Qui est dirigée par Jean-François Clairvoy.
Absolument. Enfin, Jean-François est le président et le directeur, c'est Thierry Garib. Et l'exploitant, c'est une boîte qui s'appelle, d'affrètement, qui s'appelle Avico.
Et donc, qui commercialise
Exactement, pour l'instant en tout cas, 6 vols par an au profit du public, donc avec 40 passagers par vol. Et j'espère, et j'essaye, et j'aimerais bien convaincre le président, le directeur du CNES, ce monsieur Le Gall, donc, de faire beaucoup plus de vols que ça, parce qu'il y a une vraie clientèle pour ça, à condition de baisser les prix, bien sûr.
Jacques Blamont, ça vous paraît intéressant pour comme activité, pour le public, pour percevoir un petit peu ce que ressentent les astronautes quand ils sont dans l'espace.
Oui, moi j'accepte volontiers l'idée de tourisme spatial en chambre.
Là, c'est une chambre quand même, une altitude.
C'est d'ailleurs la conclusion d'un de mes livres que j'ai publié il y a 10 ans, Le siècle des menaces, que finalement il y aurait beaucoup de gens qui passeraient leur week-end dans la réalité virtuelle dans le futur. Mais il me semble qu'effectivement le tourisme spatial virtuel est certainement quelque chose de moins dangereux. Mais on peut même imaginer la recherche qui ne coûterait pas forcément très cher permettrait de savoir manipuler les canaux semi-circulaires et de donner la sensation...
Manipuler quoi, pardon, je n'ai pas
dit. Les canaux semi-circulaires de l'oreille qui vous donnent la position d'équilibre et donc vous donner la sensation de la pesanteur. De même que si vous avez un masque et puis des senseurs qui peuvent vous donner des sensations de toucher, de vision et d'audition, eh bien on peut parfaitement imaginer que on puisse manipuler toute une série de nos organes des sens. Et ça, pour ça j'ai de la sympathie, alors que j'ai pas du tout de sympathie pour le tourisme spatial réel.
France Culture, Science Publique, Michel Albert-Gonti.
Nous débattons aujourd'hui la question, le tourisme spatial est-il la prochaine étape de la conquête de l'espace, avec nos invités Marc Alban, pilote de chasse, général et ancien directeur du musée de l'air et de l'espace et aujourd'hui président du fonds de dotation Destination Étoile, Jacques Blamont, physicien, ancien directeur technique et scientifique du Centre National d'Études Spatiales, le CNES, et Amaury Solignac, psychologue et également directeur de la société Iceberg. Alors oui, on se demande quand même, peut-être, Marc Alban, si dans la société actuelle, avec tous les problèmes que l'on connaît sur Terre, est-ce que finalement le tourisme spatial dans grandeur nature, j'allais dire, avec envoi physique dans l'espace, le plus haut possible, de quelques personnes, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment dans le sens de l'histoire ?
Ouais, je répondrai, j'esquive pas du tout la question, hein, mais je répondrai par la démarche inverse, justement, puisque on l'a pas encore évoqué, mais ce que nous cherchons à faire, c'est de faire découvrir l'espace à tout le monde. Et à l'heure actuelle, on est en train de travailler sur une espèce de parc d'attractions, si vous voulez, sur le thème de l'espace, dans lequel on aura un certain nombre d'animations qui feront penser de très près à l'espace. Je prends une animation très simple. On va essayer d'imaginer un simulateur de navette, on va dire navette spatiale, dans lequel on met un certain nombre de personnes. Et là, on va les faire décoller, virtuellement bien sûr. Et puis on va arriver jusqu'à la station spatiale internationale. On va simuler l'accrochage sur la station spatiale internationale. Et grâce à la réalité virtuelle, on va pouvoir les faire promener dans un module de la station spatiale. C'est extraordinaire. Et ça coûte pas cher.
Ouais. Donc en fait, c'est le Spaceland un peu bâti sur le modèle de Disneyland.
Allez, on va dire une espèce de futuroscope de l'espace, si vous voulez, pour être plus raisonnable, parce qu'on n'a pas pour l'instant, en tout cas, l'ambition de faire quelque chose de la dimension Disney. Déjà, si on arrive à faire quelque chose de la dimension du futuroscope, sera bien. Ces 2 millions de visiteurs, ça permet à 2 millions de personnes de découvrir effectivement l'espace à des tarifs qui sont très raisonnables.
Amaury Solignac, ça vous paraît, vous, quelque chose qui peut avoir une chance de se développer ? Ce type de parc d'attractions, c'est-à-dire le tourisme spatial à travers ce type d'installation.
Alors moi j'ai un souvenir d'enfant là-dessus. En Floride, il y avait Epcot Center, je ne sais pas si ça existe encore, mais j'ai essayé des simulateurs de décollage, de fusées, bon, rudimentaires sûrement pour l'époque, mais je pense que la réalité virtuelle apporte vraiment quelque chose à ce niveau-là. Notamment ce qu'elle permet, c'est de ne pas avoir besoin d'être dans un parc d'attractions. Alors ce n'est pas pour... Enfin, pour contrebalancer, on peut faire ça depuis n'importe quel endroit, voilà, chez soi ou dans un véhicule en mouvement comme l'avion de Novespace. Et on n'est pas lié à un lieu. Ce que ça permet aussi, c'est de se retrouver à plusieurs, même si on n'est pas dans le même lieu.
C'est-à-dire un jeu,
un réseau. Ça peut être. Alors, forcément, avec mon autre activité, je vois les applications professionnelles. Ça peut être pour l'entraînement d'astronautes, par exemple. L'entraînement pour des astronautes qui sont sur des centres distants aujourd'hui, qui travaillent en Russie, aux États-Unis.
Voilà. Jacques Blamont, vous affirmez régulièrement dans cette émission que le tourisme spatial en soi n'est pas votre tasse de thé.
Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, disons, je n'ai pas vraiment de sympathie pour le fait que... Il y a des dizaines de milliers de gens qui grimpent à le mont Everest tous les ans, en transformant les hauteurs neigeuses en cabinets de toilette abominables. Franchement, ça, je n'ose pas dire que c'est une vue élitiste, mais malgré tout, il y a là quelque chose qui me gêne. Et transformer l'espace en une sorte de cirque où il y aurait des dizaines de milliers de messieurs et dames qui viendraient faire exactement n'importe quoi dans l'espace pour des sommes importantes, ça me choque profondément. Pour moi, l'espace est autre chose. Et dire que c'est la prochaine étape de la conquête de l'espace, non. Non, pas du tout. J'espère que ça sera une prochaine étape de la conquête du cinéma, c'est-à-dire par une entrée du public dans le monde de l'image et du cinéma tout à fait nouvelle et différente grâce à la réalité virtuelle. Alors ça, oui, ça me paraît quelque chose de très très intéressant. Mais pour moi, l'espace, c'est une aventure intellectuelle qui a trouvé d'immenses applications qui ont changé notre civilisation et qui en même temps ont entièrement transformé notre vision du monde, de l'univers. Il s'agit là de très grandes affaires au point de vue éthique et je ne crois pas que ça soit l'affaire du public.
Marc Alban, après cette charge assez... forte,
héroïque. Je pense que là, on va essayer de concilier nos points de vue. Je veux dire, encore une fois, moi, ma démarche, c'est une démarche vraiment vers le public. Et je considère que le public, non seulement a envie de découvrir ce que c'est que l'espace, mais en plus a le droit de le savoir. On parle d'éthique, moi aussi je parle d'éthique, et je pense que n'importe qui paye des impôts a le droit de savoir ce qui se passe là-haut et comment ça se passe. Voilà, donc... Encore une fois, ma démarche, c'est pas vraiment... Si vous voulez, bon, honnêtement, je pense pas qu'on en soit, à l'heure actuelle, à avoir des dizaines de milliers de personnes dans le suborbital. Je pense qu'on en est encore très très loin, de toute façon. Et encore une fois...
L'idée même de tourisme spatial, c'est d'aller vers ça. Sinon, on parlerait d'autre chose, d'expérience individuelle.
Ce n'est qu'un des aspects, pour moi en tout cas, enfin pour nous, pour toute notre équipe, et pour les gens avec qui je discute. J'étais tout à l'heure avec Michel Tonini, on a longuement échangé sur le sujet, et Dieu sait que Michel, quand on parle d'éthique...
Donc, astronaute.
Oui, je vous assure qu'il est vraiment pointu. On l'a longuement échangé sur le sujet, et lui, il est tout à fait favorable à la démarche que nous avons, mais il est, comme vous, si vous voulez, il dit... Le tourisme spatial, faut arrêter de parler de tourisme spatial parce qu'encore une fois, dans l'imaginaire des gens, tourisme spatial, c'est payer 200 000 euros pour aller faire un tour là-haut. Bon, on en est très très loin et en attendant, et si un jour ça arrive, on verra comment le réguler, comment faire qu'effectivement on n'encombre pas, et je suis tout à fait d'accord avec vous, l'espace, on va dire.
L'espace qui est déjà très encombré, par ailleurs, avec beaucoup de débris spatiaux qui posent problème même pour l'exploitation des satellites aujourd'hui.
Tout à fait. Voilà. Donc, encore une fois, il s'agit bien... Bon, d'abord, pour moi, il y en a encore pour une bonne dizaine d'années, avant qu'il y ait effectivement des humains qui puissent aller passer quelques minutes, je dirais, à 100 ou 150 kilomètres. Et par ailleurs, je rappelle quand même qu'il y a un vrai créneau économique et scientifique qui est en matière de recherche, de développement en apesanteur, de largage de mini-satellites, d'observation de la Terre, parce que là aussi, on rejoint des problèmes d'éthique. À 150 km, ou à 100 km, vous avez une perception de la Terre qui est tout à fait importante et tout à fait nécessaire, je dirais. Voilà, donc, il faut arrêter de parler toujours des gens qui payent 200 000 euros pour aller faire un tour là-haut. C'est beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on peut faire dans ce domaine.
Jacques Blamont.
Je voudrais, au fond, vous dire quelque chose qui me paraît vraiment l'essentiel de la discussion. C'est que l'idée de payer 200 000 euros ou autre, pour aller se promener dans l'espace, eh bien, c'est pour aussi projeter son ego, pour avoir l'air vis-à-vis de soi-même d'un héros. Et ça rentre dans cette tendance à la démesure personnelle, à l'égotisme personnel, qui est véritablement la tendance principale de notre civilisation à l'heure actuelle et qui naturellement est extrêmement dangereuse. Et c'est ça qui amène, entre autres, le dérèglement climatique, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres aspects plus graves que le changement climatique qui sont dus à cette démesure. En grande partie, elle est occidentale et en grande partie américaine, cette démesure qui nous pousse à toujours vouloir gaspiller. Et ça, ce tourisme spatial, pour moi, est un symbole, et c'est un symbole qu'on doit combattre et convaincre nos jeunes gens et jeunes femmes qu'il y a d'autres rêves. Il y a un rêve pour aider, je ne veux pas dire du tout, je déteste le mot sauver la planète, mais aider les hommes.
À Maurice Olignac, est-ce qu'il n'y a pas quand même un impact psychologique positif à ce que beaucoup de gens puissent voir la Terre de loin? Tout à l'heure, Marc Alban parlait de Jean-François Clairvoy. Il se trouve que lui a eu un choc lorsqu'il a vu pour la première fois cette fameuse boule
bleue. Elle est belle, notre planète.
Voilà.
Mais il ne faut pas l'abîmer, je suis d'accord avec vous.
Il n'est pas le seul. Oui, parmi les astronautes, ça s'appelle l'overview effect. C'est un classique. Le fait de voir la Terre depuis l'espace souligne la fragilité de la planète. Alors, la fragilité de la planète pour nous.
Oui, évidemment, vu
en tant qu'espèce. Voilà. Mais ce que vous disiez était intéressant. Il y a quelque chose de transcendant dans l'espace qui fait rêver. Il y a quelque chose de transcendant. Pourquoi est-ce qu'on fait du spatial au final? Il y a des applications très pratiques, technologiques, qui influencent la société, qui sont gigantesques. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à faire de l'humain dans le spatial? Et c'est une question que je me suis posée en commençant à travailler avec les astronautes, à la sélection. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer d'aller vers Mars? Est-ce que ça vaut le coup? Finalement, pour avoir travaillé sur un autre thème dans un travail de groupe international, le thème étant le risque d'impact de la Terre, de comètes et d'astéroïdes sur la Terre, mais de comètes et d'astéroïdes de grande taille. Et ce qui voudrait dire un cataclysme et l'anéantissement de beaucoup de choses. Ne serait-ce que pour cette raison-là, ça vaut le coup.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que si on arrête de faire du spatial qui nous permet de voyager dans l'espace, il y a un moment où on reste finalement très terrien. Et peut-être que c'est pas quelque chose qui, à long terme, est viable.
Alors en même temps, il n'y a pas de solution, a priori, totalement verrouillée pour nous protéger des astéroïdes et des comètes.
Il y a des solutions de mitigation pour éloigner les objets, ou alors il y a la solution de s'en aller. Ça, c'est à très long terme.
C'est pas non plus une solution qui a l'air totalement verrouillée, je puis dire.
Ça
n'a pas l'air tout à fait.
Mais pour revenir à ce que vous disiez sur le fait de voir la Terre depuis l'espace, oui, c'est très intéressant, parce que ça permet de faire prendre conscience de certaines choses. Ça permet de sortir de soi, en fait, d'aller regarder depuis l'extérieur à quoi ça ressemble. Et c'est une des choses que les astronautes d'Apollo ont poussé encore plus en allant en dehors de la banlieue terrestre, en allant vers la Lune et en se retrouvant dans un triangle Terre, Soleil, Lune, qui était encore autre chose. Là, pour le coup.
Oui, excusez-moi, mais alors là, vous m'avez choqué. Vous dites, ça permet, disons, de sortir de soi. Alors là, je suis tout à fait d'accord, mais je reviens hier d'une mission en Haïti, où je dirige un programme de formation des maîtres d'école. Voilà un pays où mon chauffeur m'a dit, le problème du Haïtien, c'est de manger. Il y a 10 millions de gens. Alors, si vous voulez sortir de vous, eh bien, à ce moment-là, il y a dans le monde un certain nombre d'autres mondes bien différents qui vous permettent de sortir de vous-même et vous pouvez peut-être servir.
Marc Alban, est-ce que vraiment l'espace est cette nouvelle frontière dont on a besoin, ou alors, comme le dit ou le suggère assez fortement Jacques Blamont, il y en a beaucoup d'autres qui mériteraient d'être explorés?
Oui, bien sûr, je vais vous dire, c'est un vieux débat. Je voudrais juste faire un petit commentaire, parce que j'ai eu la chance dans ma carrière de voir la Terre de très très haut. Non seulement c'est magnifique, mais j'ai ressenti quelque chose, je me suis senti tout petit de là-haut. Et l'espace, si vous voulez, parce que
c'est pour ça qu'il faut envoyer les personnes dont l'ego est peut-être surdimensionné pour qu'ils retrouvent une mesure.
Ils se sentent tout petits, absolument. Et bon, à l'altitude à laquelle je suis allé, on commence à voir vraiment le noir de l'espace, et c'est très impressionnant. Ouais. Ça relativise beaucoup de choses, je veux dire. Voilà, c'est pour ça.
Donc vous persistez, il vous reste juste à trouver un mot pour remplacer le mot touriste et le mot spatial. Et ensuite, on pourra refaire une émission avec sur de nouvelles bases pour pouvoir avoir une nouvelle perspective de ce que l'homme pourrait aller faire dans l'espace. Pour l'instant, le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Je vais remercier Marc Alban, Jacques Blamont et Amaury Solignac d'y avoir participé. Sur notre site, vous pouvez trouver des liens avec les sites d'entreprise du tourisme spatial dont nous avons parlé aujourd'hui et qui sont pour beaucoup américaines, et aussi des références d'ouvrages sur la conquête spatiale dont l'un des derniers est intitulé « Histoire de la conquête spatiale ». Il est signé par Jean-François Clairvoy et Franck Lehaut qui est médecin aussi, qui travaille sur les astronautes et qui livre, qui publie par les éditions Vuibert. Sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un an. Et vous pouvez, je vous le rappelle, nous faire part de vos témoignages sur ce site. La semaine prochaine, vendredi 25 décembre, eh bien, nous serons le jour de Noël. Et Sciences Publiques s'inscrira dans la semaine que Culture Science, c'est-à-dire l'ensemble des émissions de Sciences de France Culture, consacre au 100e anniversaire de la publication des articles sur la relativité générale par Albert Einstein, qui date donc de 1915. Dans Sciences Publiques, nous tenterons de relever ce qui est souvent considéré comme un défi, c'est-à-dire comprendre la relativité générale. Pour nous y aider, nous avons fait appel à trois éminents spécialistes, Françoise Balibar, Jean Eisenstadt et Marc Lachiez-Ré. Sciences Publiques, Dany Journeau, David Federman, Marie Dalquier, Michel Alberganti. Nous vous laissons en compagnie des Bonnes Feuilles. Merci à tous et excellent après-midi sur France Culture.